RFI, 7h à Paris, 6h en temps universel.
RFI Matin.
Bonjour Martin Guez.
Bonjour Andréane Mellard, bonjour à toutes et à tous.
À la une ce matin, une trêve enfin à Gaza.
Trêve effective ce dimanche pour une durée de 6 semaines. Un cessez-le-feu fêté à Gaza après plus de 15 mois de guerre. Gaza dévastée, Gaza endeuillée. Plus de 46 000 Palestiniens sont morts depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Côté israélien, les familles des otages patientent fébrilement dans l'espoir d'un retour de leurs proches. Ce sera en Jérusalem avec Sami Abou Khalifa dès le début de cette édition.
Un accord et deux vainqueurs, deux présidents américains à l'œuvre.
Les administrations du sortant Joe Biden et du nouveau Donald Trump ont travaillé conjointement, même si chacun revendique cette victoire diplomatique ce matin. Joe Biden, qui a par ailleurs prononcé son discours d'adieu à Washington, est mis en garde contre l'oligarchie républicaine prête à prendre les rênes. Nous serons aussi à Los Angeles, où la météo est plus clémente, le brasier semble se calmer. Et puis avant de retrouver notre grand invité international Thierry Breton, avec Arnaud Pontus, nous parlerons économie. L'Allemagne, à nouveau en récession, et c'est toute l'Europe qui tremble, nous dira Stéphane Genest en fin de journal.
La fin des combats dans la joie à Gaza.
Des milliers de Palestiniens ont exulté hier soir à l'annonce de l'accord de trêve entre Israël et le Hamas. Et ce, après plus de 15 mois d'une guerre sanglante, avec ce morbide bilan des morts à Gaza, 46 707 morts depuis le 7 octobre 2023. Chiffre du ministère de la Santé du Hamas, un accord de trêve annoncé hier, notamment par le médiateur qatarien, mais aussi par les deux administrations américaines. Et on retrouve en direct de Jérusalem, Sami Abou Khalifa. Bonjour Sami.
Bonjour à tous.
Alors les Palestiniens comme Israéliens qui retenaient leur souffle après des semaines de négociations, enfin l'accord sur cessez-le-feu et la libération des otages est officiel, est effectif, on vient de l'entendre.
Oui, la fin d'un cauchemar qui a duré 467 jours à Gaza. Gaza et ses 2 millions de déplacés, soit presque la totalité de la population de l'enclave. Gaza anéantie par des dizaines de milliers de tonnes d'explosifs largués par l'aviation israélienne. C'est ma terre, mon pays, on reconstruira tout ce qui a été détruit, confie Abou Mohamed, interrogé hier soir dans les rues de Gaza par Rami El Merari.
Je suis vraiment heureux. Je vous mentirais si je vous disais le contraire. Je suis un déplacé de Shujaïa à Gazaville. Ma maison a été détruite. Et là, avec cet accord, je me dis que je vais enfin pouvoir rentrer chez moi. Oui, on a tout perdu, ma maison, les maisons de mes frères et de mes proches. Mais je vais aller planter ma tente sur les ruines de ma maison. Je rentrerai chez moi, quoi qu'il en coûte.
Et Sami, côté israélien, cet accord ne fait pas l'unanimité. L'extrême droite le rejette en bloc et dénonce une capitulation. Pour les familles d'otages, c'est encore l'inquiétude qui prime.
Oui, car cet accord s'ouvre sur une période d'arrêt des combats, certes, de 42 jours, une première étape durant laquelle 33 otages israéliens seront progressivement libérés. Il reste pourtant une centaine de captifs israéliens à Gaza. On ignore combien sont encore vivants. Gil Dickman est une figure des familles d'otages en Israël. Sa cousine Carmel Gat a été retrouvée morte dans un tunnel à Gaza l'été dernier.
Je ressens beaucoup de tristesse. Je me dis que ma cousine aussi aurait pu être libérée. Mais cet accord n'a pas été obtenu à temps pour elle. Alors je me réjouis pour les familles d'otages qui vont bientôt retrouver leurs proches. Mais je suis aussi très inquiet pour les otages qui ne sont pas inclus dans cet accord. Il y en a 65 dont le sort n'est pas évoqué. J'en ai parlé hier avec le Premier ministre Netanyahou et il dit que nous allons poursuivre les efforts pour les ramener.
Sur les 251 otages israéliens enlevés le 7 octobre, une centaine sont toujours captifs et parmi eux, plusieurs dizaines sont présumés morts.
Merci Sami Abou Khalifa, en direct de Jérusalem pour RFI.
Jérusalem où les familles des otages sont toujours dans l'attente.
Nous avons un accord sur les otages, c'est hier soir félicité le président élu américain Donald Trump. Côté israélien donc, il reste encore quelques questions à régler, affirme le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Le chiffre de 33 otages libérés a été évoqué. Les familles, elles, sont à bout. Espèrent voir le bout du tunnel. Reportage de Michel Paul.
Une émotion indescriptible. La famille Charabi a perdu 4 des siens depuis le 7 octobre et elle attend maintenant le retour d'Eli, le seul survivant présumé. Nous ferons tout pour le récupérer, affirme Sharon, son frère.
Tout d'abord, c'est un moment très intense de l'histoire du pays après un périple très long, éprouvant et exténuant de pratiquement 16 mois. Ce n'est pas seulement un événement privé de notre famille, c'est une célébration pour tout le peuple israélien.
Originaire d'Irak, Shlomo Mansour, 86 ans, est le doyen des otages. Sa sœur Hadassa se dit remplie de foi et d'espoir.
Nous sommes en plein déluge d'émotions. Tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Tant que nous ne voyons pas Shlomo ici, que nous ne pouvons l'embrasser, je ne pourrai pas me calmer.
Et malgré l'émotion qui est intense, la prudence est de rigueur, car tout le monde le comprend, en particulier les familles d'otages. Il s'agit d'un accord d'une très grande fragilité. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Accord fragile, nous dit Michel Paul, qui porte le sceau de la diplomatie américaine.
Avec cette double administration à l'œuvre, celle du président sortant, Joe Biden, et celle du président élu, Donald Trump, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui a d'ailleurs appelé les deux présidents pour les remercier de leur aide, même si chaque camp revendique désormais cette victoire diplomatique. À Washington, Guillaume Nodin.
Joe Biden n'a laissé à personne le soin de faire l'annonce. Comme pour mieux souligner le travail de son administration, c'est entouré de sa vice-présidente Kamala Harris et de son secrétaire d'État Anthony Blinken qu'il se présente devant la presse pour expliquer les termes de l'accord. Et le président finissant ne se prive pas de souligner que ces termes correspondent entièrement à une proposition que son administration avait faite en mai dernier. Autrement dit, bien avant l'élection présidentielle américaine et bien avant son retrait de la course. Une manière de revendiquer son ancienneté dans les négociations et sa paternité de cet accord. Car quelques minutes avant cette déclaration, Joe Biden s'était fait griller la politesse par Donald Trump. Sur son réseau social personnel, le président élu, qui reviendra lundi à la Maison-Blanche, revendique lui aussi son rôle et celui de son équipe dans la conclusion de cet accord. Selon Donald Trump, qui depuis plusieurs jours fait publiquement pression pour que cet accord soit conclu avant son investiture, c'est sa victoire en novembre qui a permis aux négociations d'aboutir. La vérité est probablement un peu entre les deux. Joe Biden admet lui-même que les deux camps ont travaillé en étroite coordination depuis plusieurs jours et il sait aussi que c'est l'autre équipe qui va suivre l'application du cessez-le-feu. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Et malgré l'annonce de la trêve, elle n'est pas encore effective. Elle doit rentrer en vigueur ce dimanche pour une durée de 6 semaines. Les bombardements de l'État hébreu qui n'ont pas pris fin. La défense civile gazaoui qui annonce d'ailleurs la mort de 7 personnes ce matin dans des frappes israéliennes. Accord de cessez-le-feu sur lequel nous reviendrons avec vous, Andréane, et avec vos invités. Rendez-vous dans un peu plus d'une heure.
Retour à Washington pour le discours d'adieu de Joe Biden.
À quelques jours de passer la main à Donald Trump, l'actuel président américain met en garde contre la désinformation et contre une oligarchie qui prend forme en Amérique. Le démocrate de 82 ans a évoqué une concentration dangereuse des pouvoirs dans les mains d'une poignée d'ultra-riches. Référence à peine voilée à Donald Trump et Elon Musk, l'homme le plus riche du monde. Concentration qui menace la démocratie, les droits fondamentaux et les libertés, a-t-il conclu au terme d'un discours très sombre. Il est 22h07 à Los Angeles, le vent qui se calme, Andréane, dans la Cité des Anges. Un répit bienvenu pour les pompiers, après plus d'une semaine à combattre les flammes des incendies qui ont fait au moins 24 morts. Les conditions météo devraient s'améliorer. Los Angeles, où l'on retrouve notre envoyé spécial, Arim Lipold. Arim, les feux qui ont été contenus ces dernières heures, mais les autorités qui demeurent vigilantes.
Oui, absolument. La situation reste particulièrement critique dans plusieurs zones du comté de Los Angeles, selon les services météorologiques américains. Mais il prévoit une diminution de l'intensité des vents chauds soufflant du désert du Nevada. L'air est très sec. La fumée est partout. Elle gêne la respiration selon l'endroit où l'on se trouve. Cela peut provoquer des picots. Gorge. Beaucoup de personnes portent d'ailleurs des masques. Quant aux familles sinistrées, eh bien, elles sont toujours sous le choc. Plus d'une semaine après la destruction de leur maison, évoquer ce souvenir reste douloureux. Certains ont vu leur maison brûler à travers leurs caméras de surveillance. De plus, trouver un nouveau logement s'avère très difficile. Un véritable parcours du combattant face aux abus sur le marché immobilier. Les familles ne reçoivent aucune aide des autorités. Elles dépendent uniquement de leurs proches, d'amis ou d'initiatives privées telles que des centres de distribution de nourriture, de vêtements et d'alimentation. Il y a quand même un élan de solidarité qui s'est mis en place. Tout le monde connaît finalement quelqu'un qui est touché par ces incendies.
Merci à Arim Lipold en direct de Los Angeles.
On se penche à présent, Martin, sur ce rapport annuel, celui de l'ONG Portes Ouvertes.
Oui, qui s'intéresse aux chrétiens persécutés à travers le monde. Portes Ouvertes qui établit un classement des 50 pays où les chrétiens sont les plus pris pour cible. Et le Nigeria occupe une triste 7e place, premier pays africain en nombre de morts. Comme nous le dit Guillaume Guénec, il est directeur de plaidoyer de l'ONG.
Alors le Nigeria, ça fait 10 ans que c'est le premier pays où les chrétiens sont tués en raison de leur foi. Donc c'est une situation qui est très compliquée, il y a beaucoup d'insécurité, beaucoup de violence. Il y a le groupe Boko Haram qui est toujours très actif. Il y a des extrémistes Fulani aussi qui vont faire des raids contre les villages chrétiens et massacrer les hommes, parfois enlever les femmes. Ça reste un pays qui depuis de nombreuses années, on a fait le calcul avec les chiffres qu'on avait, on identifie que les cas de chrétiens tués en raison de leur foi, donc quand on peut prouver que c'est lié à l'identification au christianisme, depuis l'index 2015, on serait à 35 000 80 individus qui ont perdu leur vie parce qu'ils croient en Jésus.
Des propos recueillis au micro RFI d'Aram Beng.
À Paris, début aujourd'hui de la visite d'État du président angolais João Lourenço.
Oui, officiellement, pour renforcer les liens bilatéraux et faire le point sur les grands sujets régionaux, a annoncé l'Élysée. Il devrait donc être question de la médiation angolaise dans le conflit entre Kigali et Kinshasa, dans l'est de la RDC. La France qui dit soutenir fortement et activement le processus de Luanda. Tous les sujets seront mis sur la table, assure la présidence française. João Lourenço, qui doit par ailleurs prendre la présidence de l'Union africaine en février.
On termine par cette mauvaise nouvelle pour l'économie allemande, à nouveau en récession.
Oui, deuxième année de recul pour le PIB allemand, baisse de 0,2%. Le modèle industriel du pays est en crise. Et ce n'est pas sans conséquences pour ses voisins. Bonjour Stéphane Genest.
Bonjour Martin.
Alors Stéphane, l'économie allemande en souffrance. Et avec elle, c'est toute l'Union européenne qui ressort fragilisée.
Oui, on a tendance à dire que l'Allemagne, c'est la locomotive de l'Europe. Eh bien, force est de constater qu'elle est en panne. Et si ses voisins européens sont ses wagons, la locomotive allemande peine à les faire avancer. Près d'un tiers de la production industrielle de la zone euro est allemande. L'Allemagne, c'est le premier partenaire de pratiquement la moitié des pays de l'UE. Sa situation freine donc l'activité économique du continent. Illustration en France, le pays abrite bon nombre de sous-traitants de filiales allemandes. Si l'entreprise Outre-Rhin rencontre des difficultés, c'est tout l'écosystème qui en dépend, qui les subira de plein fouet. Interdépendance des économies aussi pour les pays d'Europe centrale, producteurs à destination de l'Allemagne. Consommation en berne à Berlin égale chiffre d'affaires en moins pour les fabricants tchèques et polonais. Et cette crise allemande pourrait s'aggraver et contaminer davantage les voisins européens. Les économistes envisagent déjà une troisième année consécutive de récession, Martin.
Merci Stéphane Genest, fileur de métaphores ferroviaires sur RFI d'économie. Il sera également question dans quelques instants avec Thierry Breton, ancien ministre français de l'économie, ancien commissaire européen, invité ce matin d'Arnaud Pontus, mais pour l'heure... Vous retrouvez André Mélard et vous avez bien de la chance pour la suite de RFI Matin.
Merci Martin Guez, c'était le journal international sur RFI à retrouver comme tous les autres, vous le savez, sur notre application RFI Pure Radio. Vous l'entendiez dans un peu plus de deux minutes, notre grand invité international Thierry Breton, ex-commissaire européen, il répond aux questions d'Arnaud Pontus. Mais d'abord, un petit mot de sport. En football, Antoine Grenier, on a beau le savoir, tous les ans, la Coupe de France nous offre des surprises.
Demandé à Lyon, sorti en 16e de finale par Bourgoin-Jallieu, club de N3. L'OL pensait pourtant avoir fait le plus dur après l'heure de jeu lorsque Miko Tadze a inscrit le but du 2-1, mais les Bergaliens ont répliqué 5 minutes plus tard pour pousser l'OM. L'OL a une séance de tir au but, séance remportée par les joueurs de N3 grâce à leur gardien Ronan G, qui a repoussé les deux premières tentatives lyonnaises d'Alexandre Lacazette et Corentin.
Aujourd'hui, on vient de réaliser quelque chose qui va nous marquer à vie, qui va nous unir toute la vie tous ensemble. Donc c'est incroyable et il faut donner du crédit à tout le monde, que ce soit au staff, aux joueurs, à la mairie, à tous les bénévoles qui sont là aussi pour encadrer. Parce que c'est pas qu'une victoire des joueurs, c'est une victoire aussi d'un club et d'une ville. Il suffit de regarder les cotes avant le match, hein, on n'était pas favoris, ça c'est sûr. Mais on a été tous solidaires tous ensemble. Il y a eu beaucoup d'abnégation, parce qu'il y a eu des moments très durs. Quand une personne faisait une erreur, l'autre la rattrapait. Donc voilà, on a représenté les valeurs de la ville, les valeurs du club. Et on espère, voilà, là on va se donner encore un tirage et voir un petit peu ce qu'on va faire. Profiter de la soirée quand même, ce qu'on vient de faire, c'est pas anodin. Et peut-être qu'elle se reproduira jamais. Mais il faut profiter et se remettre au travail un petit peu après. Mais bien profiter surtout.
Ronan G chez nos confrères de Beansport.
Trois clubs de Ligue 1 en tout sont passés à la trappe lors de ces 16e de finale.
Lyon donc, mais aussi Nantes, battu par Brest et Rennes, éliminé par 3. Le PSG, largement dominateur en Ligue 1, a souffert sur les montées d'Espaly, autre club de 5e division, mais les Parisiens s'imposent 4-2 dans les autres matchs. Qualification de Toulouse, Strasbourg, Angers, Saint-Brieuc et même de Cannes pour qui c'est festival après son succès 2-1 sur Lorient, club de Ligue 2.
En tennis, Gaël Monfils confirme son amour pour l'Open d'Australie.
Le Français de 38 ans a écarté en 3-7, l'Allemand Daniel Altmaier pour atteindre pour la 12e fois de sa carrière le 3e tour à Melbourne. Il y affrontera l'Américain Taylor Fritz qui a sorti le Chilien Garin. Le numéro 1 mondial, l'Italien Yannick Sinner disputera lui son 2e tour dans la matinée face à l'Australien Tristan Schoolcate. Chez les dames, le numéro 2 mondial, Iga Świątek, n'a laissé que deux petits jeux à la Slovaque Rebecca Sramkova.
Merci Antoine Grenier. Prochain journal des sports à 8h42, heure de Paris. Tout de suite, c'est notre grand invité international.
RFI Matin.
Et ce matin, Arnaud Pontus, vous interrogez l'ancien commissaire européen chargé du marché intérieur et des services, Thierry Breton.
Bonjour Thierry Breton.
Bonjour.
Et bienvenue sur RFI.
Merci.
Dans 4 jours, Donald Trump fera son retour à la Maison Blanche. Au vu de ses déclarations fracassantes et de ses menaces plus ou moins directes, est-ce que vous êtes inquiet pour l'Europe ?
Tant que l'Europe est unie, je ne suis jamais inquiet.
Est-ce que l'Europe est unie ?
Donc la question, c'est effectivement de préserver notre unité. Alors on va évidemment parler du 20 janvier, bien entendu.
Évidemment.
Mais tout autour de nous, vous savez, concourt à vouloir affaiblir l'Europe. On le sait depuis maintenant plusieurs années, hélas, avec Vladimir Poutine, qui ne cesse d'essayer de nous diviser. C'était même avant la guerre d'agression en Ukraine. On le voit évidemment avec Xi Jinping et désormais avec les propos effectivement de Donald Trump. Donc oui, il faut que nous on reste unis parce que nous sommes un grand continent. Nous avons 450 millions de consommateurs et aussi de concitoyens, bien sûr.
Bien sûr. Oui.
Et avant même d'être des consommateurs, nous sommes des citoyens et des citoyens européens. C'est par parenthèse une fois et demie plus gros pratiquement que les États-Unis, hein, je le rappelle. Donc oui, on est une grande démocratie. Et voyez-vous, comme toutes les démocraties dans le monde aujourd'hui, eh bien nous sommes attaqués. Donc il faut être plus fort pour être plus...
Oui. Vous pensez que Donald Trump cherche délibérément à affaiblir l'Europe ?
Non mais je crois que c'est très prématuré de tirer ce type de propos. Il dit lui-même qu'il est transactionnel, qu'il préfère discuter quasiment en bilatéral qu'avec des blocs, et on peut le comprendre, c'est sans doute plus facile. Il est transactionnel, ça veut dire qu'il cherche d'avoir le meilleur deal, pour reprendre un langage qui lui est coutumier, dans les relations, y compris même interétatiques qu'il peut avoir. Donc voilà, donc nous on le sait, et donc plus que jamais, eh bien, il faut qu'on ait un visage et une voix unique. Et oui, il est très important que l'Europe exprime ce visage, cette voix et la porte et incarne ce visage.
Oui, quand il évoque il y a quelques jours un possible rachat du Groenland, évidemment, ça frappe les esprits. Groenland, territoire européen de fait, puisque attaché au Danemark. Est-ce que vous avez entendu les autorités, les institutions européennes protester ?
Écoutez, on est dans une période un peu singulière qui, fort heureusement, s'achève. S'achève le 20 janvier. C'est pendant une fois tous les 4 ans aux États-Unis, vous avez 100 jours où le président élu est là et il parle. Il n'a aucun pouvoir sauf celui de la parole.
Il parle beaucoup.
Certains en usent, d'autres en abusent. Mmh. Je vous laisse juge de la façon dont vous voulez qualifier l'administration qui vient. Et puis le président sortant, son pouvoir décroît de jour en jour. Donc oui, il y a beaucoup de paroles qui sont proférées. Et je crois qu'il est... Il faut les prendre peut-être uniquement pour ce qu'elles sont, même si certaines nous choquent. C'est évident, en tant qu'Européens, on ne peut pas... ne pas être choqué.
Mais de votre point de vue, il faut prendre ça avec sérénité, un peu de recul, ne pas surréagir, ou est-ce qu'on sous-réagit ?
Eh bien, je crois qu'il faut attendre, encore une fois, que la nouvelle administration prenne fonction, et après ça, rentrer en discussion avec l'administration, escalité. Pour l'instant, c'est des propos, les uns et les autres s'expriment, il y a d'autres personnes autour de lui qui ne sont rien d'autre que des personnes, même peut-être singulières, je pense à Elon Musk, qui parle, ils sont rien d'autre que ce qu'ils sont, même si c'est déjà beaucoup
bien de
choses qu'ils sont, mais ils ne sont certainement pas encore membres d'une quelconque administration, donc leur parole n'engage qu'eux-mêmes. Donc attendons le 20 janvier et soyons vigilants.
Et soyons vigilants, et restons unis, nous Européens,
restons unis,
c'est ce que vous dites.
Bien sûr, et n'oublions jamais que nous sommes l'un des plus vieux alliés des États-Unis d'Amérique et que l'intention est de le rester. Mais vous savez, j'ai toujours eu coutume de dire que pour être un bon allié, il faut être fort. Et plus on est fort, plus forte est l'alliance. Donc c'est l'intérêt de tous que d'avoir une Europe forte et unie et certainement pas de vouloir l'affaiblir.
Alors dans ses bagages, vous l'avez évoqué, Donald Trump arrive avec Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, patron de Tesla, de SpaceX, propriétaire de X. Qui vous a qualifié il y a quelques jours de tyran de l'Europe ? Venant de lui, vous prenez ça comme une insulte ou comme un compliment ?
Oh, vous savez, il y a longtemps que je ne qualifie plus les propos qui peuvent être tenus.
Parce que vous dialoguez régulièrement, si je puis dire, via X,
répondez. On dialogue depuis longtemps, je connais bien Elon Musk, j'ai suivi du reste ses évolutions, il était avant un démocrate fervent, il était un soutien financier de Barack Obama, puis de Joe Biden, il avait soutenu la campagne de Hillary Clinton. Voilà, je l'ai vu ensuite faire un virage sur l'aile assez raide, et pour devenir maintenant, il y a que peu de mois, je le rappelle à vos auditeurs, un soutien fervent de Donald Trump. Donc, il n'est pas toujours facile à suivre, mais en revanche, sur X, c'est vrai qu'on échange des propos. Voilà, et ils sont ce qu'ils sont. J'ai l'habitude, et au fond, quand je les commande directement avec lui.
Vous ne vous ménagez pas mutuellement. Non, pour refaire le film pour les auditeurs, parce qu'il y a quand même une histoire derrière, bien sûr. Fin décembre, Elon Musk écrit sur sa plateforme « Seule l'AFD peut sauver l'Allemagne ». L'AFD, c'est le parti allemand d'extrême droite. On sait qu'il y a des élections en Allemagne le 23 février. Et là, vous le mettez en garde en lui répondant, toujours sur X, vous le mettez en garde sur une possible ingérence étrangère lors de ces élections. Et il y a quelques jours, Musk récidive, si je puis dire, puisqu'il partage sur son compte en direct une retransmission du congrès du parti AfD, Alice Weidel. Qu'est-ce que vous reprochez à Musk? Ses opinions politiques?
Non, certainement pas. Encore une fois, vous savez, en Europe, chez nous, la liberté de parole, c'est sacré. Et il n'y a pas de censure en Europe. Et on y veille. Et du reste, cette loi, le DSA, donc, qui régule un aspect unique, un aspect singulier des réseaux sociaux, qui est la capacité d'accélérer, d'amplifier massivement des informations via des algorithmes qui peuvent être tronqués. Je le répète, la loi,
oui,
le
DSA... Elle est là, votre inquiétude. Pour être clair, voilà, la parole est libre.
Je vais y revenir. Donc, le DSA ne contrôle certainement pas la parole. La parole est libre en Europe. Bien sûr, elle est encadrée par la justice régulière. On n'a pas le droit de proférer des propos antisémites, racistes, proférer des incantations de terrorisme, etc. Oui. Ça, c'est les tribunaux classiques. Sur le numérique, on ne régule que l'effet singulier de la plateforme, des très grandes plateformes, celles qui ont plus de 45 millions d'utilisateurs en Europe, c'est-à-dire 10% de la population européenne, pour vérifier que les algorithmes, bien, n'ont pas été modifiés et suivent bien les règles de transparence et de modération du DSA. Un point, c'est tout, ni plus ni moins. Rien à voir avec la censure et rien à voir avec une capacité d'invalidation des élections, je le redis de façon très claire. En revanche, à partir du moment, donc on est tous libres, et Elon Musk est libre d'avoir les opinions qui sont les siennes, même si c'est pas un citoyen européen, mais il a le droit, comme tout un chacun, de dire ses opinions. Il a le droit aussi d'avoir...
Pour être clair, Thierry Breton, et pour refaire en un mot simplement, ce qui inquiète et ce qui est derrière la réglementation européenne, c'est d'éviter la caisse de résonance ou de sur-résonance, c'est ça ?
C'est exactement uniquement ce qu'on régule avec le DSA. Donc pour finir sur l'AFD, il a le droit. En revanche, s'il utilise n'importe quel type de média pour le faire, il n'y a pas de problème. S'il utilise une plateforme, quelle qu'elle soit, c'est une plateforme numérique, quelle qu'elle soit, ça peut être X, ça peut être Meta, ça peut être TikTok, enfin, toutes celles qui sont régulées, s'il en utilise une, eh bien, il faut tout simplement qu'il veille précisément à ce que cette plateforme soit bien régulée selon les règles du DSA pour éviter, eh bien, évidemment, d'avoir des déviances qui peuvent à ce moment-là porter préjudice, en tout cas, c'est ce que nous considérons, nous, donc, aux personnes. Donc voilà, donc à partir du moment où il y a des événements importants, eh bien, il faut en permanence, et qu'on utilise un réseau social, il faut en permanence veiller à ce que ce réseau social respecte bien la loi. En ce qui concerne X, comme vous savez, c'est public, donc je peux le dire, avant que je ne quitte la commission, on avait ouvert deux enquêtes, précisément, elles sont encore en cours. Si on avait ouvert ces enquêtes, c'est qu'on avait des suspicions, qu'il y avait des endroits où cette loi n'était pas respectée.
Malgré vos explications, vous entendez bien certains dire, mais attention, on s'en prend à la liberté d'expression de cette manière-là. Est-ce que vous seriez aussi vigilant, après tout, si Elon Musk affichait son soutien pour les sociodémocrates ou les chrétiens démocrates allemands dans cette élection?
Évidemment, la réponse est oui. Et encore une fois, il ne s'agit en aucun cas de contrôler la liberté de parole. Vous savez, cette loi, elle a été votée à une très large majorité par le Parlement européen, y compris par des membres de l'extrême droite, qui aujourd'hui semblent ignorer ce qu'elle contient. Donc cette loi a été votée très largement par le Parlement européen, c'est bien parce que elle n'est en aucun cas attentatoire à la liberté de parole, faute de quoi le Parlement n'aurait jamais soutenu. Et tout le monde le sait. Alors maintenant, effectivement, on voit qu'il y a, disons, une frange qu'on peut qualifier, je veux injurier personne, et c'est sans doute pas injure que de le dire, complotiste ou autre, qui essaye maintenant de dire, ah ben finalement, c'est de la censure pour faire passer d'autres types de messages. Mais non, je le redis, la loi européenne ne censure rien, elle ne fait que réguler pour la première fois au monde, et il faut s'en féliciter, parce que c'est indispensable pour notre démocratie, l'effet singulier des réseaux sociaux. Et vous savez, les parents qui m'écoutent aujourd'hui, ce matin, qui nous écoutent ce matin, ils savent très bien ce que je veux dire, quand on voit effectivement les dommages que peuvent causer sur les réseaux sociaux, eh bien, un usage inapproprié de ceux-ci, en particulier avec des flots d'informations qui peuvent vous tomber dessus sans savoir d'où ils viennent, et être préjudiciables pour nos enfants.
Thierry Breton, allons au bout. Si il est avéré que X enfreint la règle européenne, ça veut dire amende, et ça peut vouloir dire aussi interdiction de X sur le sol européen. On peut aller jusque-là.
Mais c'est, tout le monde a l'impression de découvrir cette loi qui, cette loi qui a deux ans.
Il y a de la pédagogie à faire, semble-t-il.
Il suffit de la lire. Et en particulier, c'est drôle parce que ceux qui l'ont voté, qui disent maintenant, mais c'est scandaleux. Mais quoi qu'est-ce, la loi, comme toutes les lois, si elles ne sont pas appliquées, il y a des sanctions. Je préfère qu'elles ne soient pas appliquées.
L'interdiction de X est possible, techniquement.
Je vais le dire de façon très précise. 6% du chiffre d'affaires, si jamais il y a une infraction, ça peut être beaucoup. Et s'il y a répétition, à ce moment-là, il peut y avoir saisine d'un juge qui peut décider de façon temporaire, c'est le juge qui décidera, donc d'interdire de façon temporaire l'usage de la plateforme le temps qu'elle corrige les problèmes qui lui sont reprochés. Voilà, c'est la loi, il suffit de la lire, ni plus ni moins, il n'y a pas de censure, et que chacun... dans ce moment, regarde, c'est pas très compliqué, hein. On la télécharge sur Internet, on la lit et on se fait son opinion plutôt que d'écouter tel ou tel complotiste.
Thierry Breton, un mot de l'Allemagne, qu'on dit être la locomotive économique de l'Europe, et la confirmation est tombée hier, le pays enregistre une deuxième année de récession en 2024. Est-ce que c'est grave, docteur ?
Bien sûr, c'est grave pour tout le monde. L'Allemagne est un grand pays européen, et donc bien sûr que c'est grave. Et on doit et s'en inquiéter, ne pas s'en satisfaire et trouver des solutions effectivement pour que ça change. Mais c'est vrai que l'Allemagne est dans une situation particulière. On sait que son modèle économique, qui reposait sur du gaz russe pas cher et abondant, un marché chinois ouvert et une protection pour sa propre défense sous parapluie américain, tout ça a plus ou moins volé en éclats. Donc l'Allemagne doit réinventer son modèle économique. Elle est dans cette réinvention. On sait qu'il va y avoir des élections le 23 février en Allemagne. Oui. On verra qui va gagner. Mais moi, personnellement, j'ai bon espoir qu'on ait une coalition solide à la suite de ces élections. Quand on voit les sondages, on peut l'espérer. En particulier Friedrich Merz, qui est le leader de la CDU, qui est le parti de centre-droit allemand a l'air de tenir la corde avec plus de 30% ou 32% au regard des sondages. Donc on verra à ce moment-là. Mais c'est très important qu'effectivement l'Allemagne engage ce redressement. Et je le redis par parenthèse également, il est fondamental que le couple franco-allemand fonctionne et fonctionne bien. C'est pas le cas aujourd'hui. Je m'en suis plaint à plusieurs reprises et je le regrette parce que je suis un défenseur de l'Europe. Et je pense que c'est important effectivement que ce couple refonctionne bien. Pour ça, évidemment, il faut avoir de la visibilité en Allemagne, j'espère qu'on va l'avoir. Il faut aussi avoir de la visibilité en France. Et j'espère qu'on va l'avoir.
Ce qui n'est pas très sûr, nouvelle motion de censure cet après-midi à l'Assemblée. Est-ce que vous craignez concrètement une chute du gouvernement de François Bayrou en France?
Il y a bien longtemps que j'ai arrêté de faire les pronostics maintenant sur...
Mais c'est un motif d'inquiétude.
À l'Assemblée, c'est un motif d'inquiétude surtout sur pour les marchés financiers, pour nous évidemment, pour les entreprises, parce qu'elles sont à l'arrêt en ce moment en France, pour beaucoup d'entre
elles. Et pour la France qui n'a pas de budget, en un mot.
Et pour les marchés financiers, je rappelle qu'ils nous prêtent, parce qu'on doit emprunter 300 milliards d'euros cette année encore, tout simplement pour financer notre vivre ensemble. C'est quand même pas rien, compte tenu du niveau d'endettement qui est celui de la France. Donc oui, j'espère qu'évidemment...
La France qui est un pays sans budget.
J'espère qu'évidemment, tous ceux qui prendront cette décision le feront en leur âme et conscience et sauront ce qu'ils font. Donc au fond... Entre nous, j'ai bon espoir que cette motion de censure ne passe pas cet après-midi.
Ne passe pas. Si on parle du budget un instant, puisqu'il nous reste à peine 30 secondes, on va faire vite. Vous avez entendu la ministre des Comptes publics hier, 50 milliards d'efforts budgétaires, 30 milliards de dépenses en moins, 20 milliards d'impôts en plus. Est-ce que ça vous semble le bon dosage?
Écoutez, on est le dernier élève de la classe européenne aujourd'hui, avec 6,1% attendu en 2024. Malheureusement, je crains qu'avec 5,4, on soit encore le dernier élève de l'Europe.
Donc il est
temps de se mettre travail et sérieusement travail en France pour réduire le train de vie de l'État, la dépense publique, évidemment en préservant nos acquis. Il y a beaucoup de travail à faire, mais c'est une nécessité absolue parce que même avec 5,4, on sera encore très loin. 5,4%, je rappelle que c'est du quand PIB. Même 150 milliards d'euros de plus dans la dette.
Merci
en 2025.
Thierry Breton, merci d'être venu ce matin sur RFI.
Priorité santé. Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui.
Regard croisé sur la cardiologie en Afrique subsaharienne.
Demain.
Émission Questions de femmes, nous parlons de la fatigue comme symptôme.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI. Tout à l'heure sur RFI. sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
C'est un tableau qui évoque les premiers temps de la République d'Haïti indépendante, le serment des ancêtres du Guadeloupéen Guillaume Guillon le Tiers. Un tableau réalisé en secret par ce peintre de la royauté et de l'Empire, artiste tombé dans l'oubli, auquel le Louvre consacre une exposition.
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amar, du lundi au vendredi à 15h10 TU